Aboubacar Bamba est un jeune Ivoirien qui a vécu au Mali puis en France. Aujourd'hui, il a créé sa société de recyclage de déchets plastiques, mais ça n'a pas été son premier business. Dans cette vidéo, vous allez voir son parcours, comment en est-il arrivé au recyclage.
Moi, je suis donc né en Côte d'Ivoire. En 2002, je suis allé au Mali, donc suite à la guerre en Côte d'Ivoire, d'où j'ai donc fait le collège, la suite de mon collège jusqu'au lycée. À l'obtention du bac, j'ai fait 2 années de fac. Par la suite, donc, j'ai postulé en France pour l'UTGEA. En 2010, je suis arrivé en France. Donc j'ai fait mon UTGEA en un semestre et puis je suis parti donc sur une formation donc de création et conception d'entreprise à l'université de Poitiers. Cette année donc je suis parti donc sur une formation en informatique où j'ai travaillé donc 6 ans dans le domaine de l'informatique. En tant que technicien réseau et quand je partais donc de l'Opéra de Paris, mon dernier poste, j'étais administrateur réseau et junior.
Mais déjà, j'aimerais qu'on revienne juste un peu plus avant, c'est-à-dire un peu
vite. Ouais.
C'est-à-dire, tu as eu ton bac, tu l'as passé
au Mali.
Au Mali, du coup. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de venir en France, en fait? Pourquoi la France?
Alors, d'abord, je ne pensais pas venir en France. J'ai commencé donc une faculté de sciences, économie et gestion au Mali. Vu le système, les difficultés et les chances qu'on a là-bas, donc je me suis un peu projeté sur l'Occident, où les pays où les systèmes éducatifs étaient un peu plus profond et on avait plus de chances en fait de revenir quand on revient avec un diplôme étranger, ben on avait plus de chances de travailler que si on était avec un diplôme national à l'époque. C'est peut-être un peu toujours le cas, mais c'est cette vision que j'avais. Donc la France, ça s'est fait un peu par connexion aussi avec mon ami à l'époque. Et puis les chances que j'avais quand j'ai postulé, ça s'est fait tout seul après, quoi, avec mes notes et...
T'es un bon élève et tout. Direct, mon papy est venu.
Ouais, j'étais pas studieux, mais ça va, je tenais le cap.
Mon fac aussi, t'étais...
En fac, c'était aussi j'avais des difficultés parce que quand je suis arrivé en France, je découvrais le système, le rythme, tout ça. Les gens, ils sont, on va dire, ils ont un entraînement depuis l'école élémentaire, alors que nous, on apprend tout seul. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'orientation. C'est des systèmes que j'ai découverts en France, donc les services d'orientation, d'aide, d'accompagnement, tout ça, qui n'existaient pas en Afrique. Voilà, en tout cas dans les pays où j'étais, si ça existe, c'est pour la classe, c'est pour une certaine classe sociale. Donc voilà, j'ai découvert ça et du coup, il fallait travailler 2 fois plus. Ça a été une première difficulté. Et puis, quand je rentrais dans le bain, je découvrais d'autres difficultés devant, qui sont par exemple trouver un stage. Et à l'époque, dans ma promo, surtout dans ma classe, la majeure partie en fait des élèves ou étudiants étaient des neveux ou des fils donc d'experts comptables ou des chefs d'entreprise. Donc je me disais, mais j'étais pas dans mon environnement. Même pour trouver un stage, c'était déjà
compliqué.
Ouais, très compliqué. Mais j'ai tenu que un semestre et je suis parti sur une réorientation. Donc j'ai fait le programme Rebond qui est donc un diplôme universitaire de l'Université de Poitiers, qui est organisé par le SAFIR, donc c'est le service d'insertion, d'orientation. Voilà, et là-bas, donc j'ai fait ce cursus-là sur la création et la conception de projets. Donc j'étais majeur de ma promo. Et c'est comme ça que j'ai poursuivi avec l'informatique tout de suite parce que c'est ce que je voulais faire. Et je l'ai fait en alternance. Donc j'étais le premier alternant aussi dans l'Université de Poitiers.
D'accord.
Ouais, le premier apprenti de l'Université de Poitiers. Donc voilà, c'est une grosse fierté.
C'était caché depuis.
c'est une grosse fierté. Et puis donc, j'ai été embauché par le SAFIR comme administrateur réseau.
Ah ouais?
Ouais, en apprenti. Et après 2 ans, ils m'ont fait un CDD également, où j'ai travaillé 1 an après. Et puis, je suis parti sur la région parisienne pour travailler dans des sociétés de services numériques, où j'ai fait 3 ans et presque 4 ans. Donc j'ai fait Connect Informatique, qui fait donc un peu boîte d'intérim informatique et d'autres services, où j'ai travaillé pour des grands comptes. Et après j'ai travaillé donc le concurrent qui est LynxRH, qui est un chasseur de tête, une boîte de chasseurs de tête, donc où j'ai eu de belles expériences également. Donc j'ai travaillé à la Société Générale, au Crédit Agricole, et puis après Canal, et puis Canal Plus, et ensuite Opéra de Paris.
Voilà. Et pourquoi t'as arrêté?
Alors, j'ai mis en stand-by, j'ai pas arrêté parce que l'informatique reste quand même un domaine où on va toujours exercer là-dedans, surtout tout ce qui est gestion réseau, système, voilà, et exploitation. Donc ça, j'en fais un peu toujours au quotidien, voilà. Mais là, je suis parti sur le projet parce que je voulais toujours entreprendre. Donc l'idée d'entreprendre, je l'ai ancré en moi, donc cette idée je ne l'ai jamais abandonnée, parce que quand je travaillais, j'ai mené des petites activités à l'informel peut-être, mais je faisais de l'exportation par exemple de véhicules d'occasion vers l'Afrique, également d'électroménager, des choses comme ça, essayer de maintenir ce petit commerce en parallèle avec mon métier. Donc ça allait très bien jusqu'à ce qu'il y ait en fait de nouvelles réglementations en Côte d'Ivoire sur l'interdiction donc de véhicules de moins de 5 ans. Voilà, donc après de plus de 5 ans. Donc après quoi, j'ai arrêté ce boulot. Et du coup, je me suis un peu plus plongé sur la création d'entreprise. Donc, ce que je voulais faire au départ, c'était l'installation de fibres optiques ou conception de fibres optiques. Donc, j'ai pas réussi à trouver un financement de cette formation qui coûtait un peu cher.
Voilà. Ah d'accord, c'était une formation, c'est pas un boulot en plus que tu voulais rajouter.
Il fallait que je me forme quand même un petit peu, parce que sur la fibre optique. Et donc j'avais pas, les services de Pôle emploi ne pouvaient pas m'accompagner là-dessus, parce que j'avais déjà un background en informatique important. Ils trouvaient que je pouvais déjà travailler sans, donc il n'y a pas besoin. Et puis je venais juste de quitter un emploi, donc il fallait que je fasse plus d'un an ou deux. En tout cas, je rentrais pas dans les cases donc d'un financement et tout. Du coup, je suis parti sur la création d'entreprise, et donc je l'ai fait prestation de services et aussi fournisseur donc d'équipements informatiques. Après, j'ai découvert que c'est un domaine qui est très 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 saturé. Il y a beaucoup de concurrents, notamment des concurrents donc européens, de la France également. Donc je faisais pas le poids après mon étude de marché. Donc en parallèle, depuis 2014, donc j'ai un ami d'enfance avec qui j'ai discuté toujours donc de son activité. Donc c'est dans le recyclage. Lui il fait de la collecte en particulier, donc collecte de déchets plastiques, donc qu'il vend ensuite pour l'exportation ou pour la valorisation. Donc je me suis concentré sur ce projet, j'ai regardé un petit peu. Donc l'idée qu'il voulait, lui, c'était d'acheter un broyeur, Voilà, et dès qu'il a un broyeur, et donc il allait broyer les déchets et avoir des broyats. Et ça lui servirait donc de... ça ferait une valeur ajoutée. Alors moi, en creusant, j'ai vu qu'on peut aller plus loin et que même si c'est coûteux, que c'est effrayant pour les sommes à investir là-dedans, ça valait le coup. Donc, et qu'on avait peut-être les moyens de trouver des subventions ou même des financements, surtout que maintenant, il y a une prise de conscience au niveau international par rapport à tout ce qui est déchets, environnement et pour la planète.
Mais juste avant de rentrer, parce que là, je vois que tu rentres déjà dans Reciplast.
Ouais.
Mais j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu avant. Ce que tu disais, en gros, pendant ton job d'informaticien, à côté, tu faisais des petits business de véhicules. Et d'où ça devient, en fait, cette envie de faire un truc à côté, alors que déjà, de base, t'as un travail, t'étais peut-être assez bien payé, ou je sais pas. Et
alors,
ça devient, c'était juste comme ça, passer le temps ou...
On va dire que ça s'est construit par rapport à mes expériences personnelles. C'est vrai que j'ai que 31 ans, mais en Afrique, il y a un certain besoin. Quand on regarde le quotidien des gens, le pouvoir d'achat est vraiment sommaire. Et moi, je viens d'une famille modeste, donc... même quand on est expatrié ici et que on arrive à avoir son pouvoir d'achat, on a toujours en fait ce devoir en fait de s'occuper donc de la famille ou des amis, d'aider les amis, les proches en tout cas en Afrique. Et on ne peut pas vivre tranquillement ici en se disant ben, j'ai les moyens de me payer des vacances, de voyager, de profiter. Et si en plus on doit aider donc, la famille au pays, ça devient un peu plus compliqué. Voilà, donc et moi je voulais avoir une certaine indépendance. Et ça a été toujours aussi symbolique pour moi en fait de créer une activité au pays, d'apporter ma pierre à l'édifice en fait aussi, au développement. M'impliquer, voilà, personnellement, m'impliquer. Oui, et puis pas être un exemple, mais essayer d'inspirer aussi mes confrères.
D'accord. Et du coup, maintenant, on reste place.
C'est plastique. Parce que Reciplast, c'est... Alors, à l'origine, oui, c'est vrai que c'est toi, tu connais le début du projet, mais on avait décidé le nom de Reciplast. Et puis, en fait, 4 mois après, il y a eu une entreprise qui a poussé du nom de Reciplast, qui fait la même activité. Bon, il y a eu une chute de dossier, certainement, ou pas, ou c'est un coup de chance, on saura jamais. Mais voilà, du coup, on a renommé depuis un an, on a renommé la structure, donc le projet a été renommé. C'est pourquoi on a créé directement la société il y a un an. Donc c'est Placycle.
Ok, donc Placycle, ben, tu vas dire en gros, c'était un ami du coup qui avait ce projet-là, enfin qui commençait déjà à travailler dans ce domaine-là, qui transformait certains déchets, c'est ça?
Oui, alors il transformait pas. En fait, il a suivi un pro. Mon ami, en fait, donc après la guerre en Côte d'Ivoire en 2010, l'État a mis en place en 2014 un programme avec l'aide de l'Union européenne et la Banque mondiale et d'autres partenaires. Ils ont mis en place un dispositif en fait pour insérer les jeunes qui avaient fait la guerre. Parce que tout le monde ne pouvait pas être enrôlé comme militaire dans l'armée. Donc il fallait que certes, ceux qui avaient fait la guerre soient réintégrés dans la vie sociale. Donc il y a ce dispositif qui a été mis en place. Et dans ce dispositif, il y avait pas mal de cœurs de métier. C'est des métiers donc de recyclage, de fermier, voilà, de planteur, agriculteur, pisciculteur, voilà. Et donc... ou apiculteur, enfin, donc ces métiers ont vu le jour. Donc il y a eu un vaste programme... où les gens ont été formés. Et donc mon ami a donc bénéficié de cette formation et il était le président donc des UVD. Donc les UVD, c'est les unités de valorisation de déchets. Donc ces unités de valorisation de déchets faisaient la collecte des déchets plastiques, la transformaient avec des broyeurs et puis ensuite faisait une transformation, même jusqu'à une valeur ajoutée finie. C'est-à-dire qu'il transformait les bouteilles, par exemple, des bouteilles d'eau en PET, il les transformait en pavé. À base de sable et de plastique. Voilà. Après, c'est pas des machines, ils ont pas des machines performantes parce que c'est soit des machines fabriquées par des ingénieurs en local. Donc, soit la capacité est pas adaptée, soit en fait il y avait des problèmes d'adaptation, donc, ou de rendement. Voilà. Donc, ces unités-là, il y en avait 20, donc il y a très peu qui tiennent aujourd'hui parce que il n'y a pas eu de suivi, au niveau organisationnel, ça a été compliqué. Voilà, donc lui, aujourd'hui, il est à son propre compte. Du coup, ben, moi, j'ai proposé que, ben, comme il voulait un broyeur pour pouvoir, même si c'était un vieux broyeur, c'était ce qu'il voulait. Comme ça, il ne ferait pas que la collecte de déchets plastiques, mais il ira jusqu'à une valeur ajoutée. Donc, en broyant, ça lui fait une valeur ajoutée. Et quand il le vend, il le vend un peu plus cher. Donc, moi, je savais, enfin, quand il m'a sollicité pour acheter un broyeur, comme ça, on devient associé. Moi, j'ai fourni le broyeur et lui continuait de travailler. Moi, j'ai voulu donc en savoir plus. Donc, en creusant, j'ai compris qu'on pouvait aller jusqu'à l'étape de granulation. Donc, les granulés, en fait, c'est après le broyage, la matière passe à l'extrusion. Donc, c'est encore fondu. Donc, ça sort en filament et ce filament, il est découpé en granulés, en graines, quoi. Donc, ça fait des petites bulles, voilà. Et ça sert de matière première pour l'industrie. Donc, c'est pas de la transformation finie, mais semi-fini. Donc, les industries de la plasturgie utilisent ça pour fabriquer leurs produits. Voilà, ça leur sert de matière première. Soit elles le mélangent, pour certaines, elles le mélangent avec du plastique vierge, donc des granulés vierges, soit elles utilisent complètement la matière recyclée.
Voilà. Et ils les transforment généralement en bouteilles, par exemple?
Pas forcément, ça peut être la bouteille, ça peut être... En fait, c'est un produit fini qui répond à un besoin, quoi. Donc, généralement, en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est pour faire des seaux, des bassines, des assiettes, des gobelets, des bouilloires en plastique, des choses à base de plastique, des chaussures, plein de choses. Donc, dans le domaine d'urbanisation, ça peut être des profilés, des tuyaux pour le jardinage, des choses comme ça. Voilà, des chaises de jardin.
Mais bon, vous ne transformez pas en produit fini comme ça, enfin...
Alors, nous, on ne s'est pas penché sur ça. Nous, on se penche donc... nous, l'idée, c'est de mettre en place vraiment une structure de recyclage et qui va produire un produit innovant derrière. Donc, l'idée, on innove donc nous en faisant donc du recyclage des déchets plastiques, mais également donc des déchets textiles grâce à l'innovation Plaxtil qui est donc innovation qui est née à Châtellerault, à l'usine de CDA Développement, qui est donc une structure française qui nous donne les droits d'exploitation donc de cette technologie. Et nous, l'idée, c'est de mettre en place en fait des tables d'écoliers en fait pour lutter contre la déforestation, parce qu'on utilise en fait les tables bancs d'école sont pratiquement faits avec du bois, et c'est du bois local. Donc l'idée, c'est de créer un produit hybride donc entre le métal ou l'acier et donc le plastil, c'est donc recyclage de textile et de plastique.
Donc en gros, les vêtements, enfin
oui, vêtements, sacs à main, porte-monnaie, tout ça, on va les recycler en fait à travers. Donc
tu transformes ça en banc et tu revends aux gens.
Oui, c'est ça.
c'est bien. Donc il y a que à Châtellerault qui est fait, enfin qui le font en France.
Oui, cette technologie, elle est unique dans le monde. Donc il y a que CDA Développement à travers donc sa nouvelle entreprise Plaxtil qui produit ce matériau là. Donc nous, on va utiliser ce matériau pour faire les tables bancs en Côte d'Ivoire. Voilà. Et également, on va dupliquer les produits donc, de Plaxtil si possible.
En plus, il y a pas mal de déchets à niveau textile, j'ai envie de dire, par des choses qui sont jetées à ce niveau-là. Donc,
oui, et ben, en France, on compte à peu près 400 millions de tonnes par an qui sont détruits
de tissus
pour les vêtements. Ouais. pour le textile.
Donc ça en fait une première matière, première en gros, un peu...
C'est de la matière.
Gratuite,
mais... Oui, c'est, bah, c'est une nécessité de recycler ces, ces matériaux-là, donc, c'est important de...
Donc toi, c'est ça ce que tu veux prendre et tu veux faire ça au...
En Côte d'Ivoire, et puis on verra pour une expansion plus tard.
Toute l'Afrique.
S'il y a possibilité, oui, ça sera
Mais vous en êtes où là actuellement en fait avec la plastique?
Alors actuellement, donc on vient donc d'être lauréat de l'appel à projet Diaspora Entrepreneurship qui est organisé par Division Sud Vision, qui est une structure franco-malienne, donc qui organise en fait un appel à projet pour encourager en fait l'élite et la diaspora africaine à revenir dans son pays d'origine avec un projet d'entrepreneuriat. Voilà, donc pour nous c'était vraiment une belle occasion parce que les sources de financement sont fermées ou très compliquées et on n'a pas de dispositif qui puisse nous accompagner même au niveau de la France quand on doit repartir dans nos pays d'origine avec un projet clé à main. Voilà.
D'accord, donc ce que toi tu recherches là actuellement, ça serait des financements un peu partout où tu peux le trouver en fait.
Oui, ben,
en Afrique, en France.
En France ou même au niveau de l'Union européenne. Alors, il existe bien des dispositifs, on en parle, mais nous, on ne sait pas comment mettre la main là-dessus. Donc, il faut trouver le bon interlocuteur, mais on ne le trouve pas assez bien, assez rapidement. Alors, au niveau de la France, depuis un an, il y a quelques dispositifs qui se sont mis en place, hein, tels que le Pass Afrique, mais les critères sont encore. On va dire très sélectif et du coup on a du mal en fait à trouver le bon dispositif qui puisse nous accompagner réellement. Donc
parce que là vous cherchez à peu près pour combien?
Alors nous
et pourquoi faire surtout?
Oui, mais nous on a fait beaucoup de concessions sur le projet parce que en Afrique on a la main d'œuvre, donc il y a besoin de créer de l'emploi, donc tout ce qui est automatisation on l'a un peu ôté, sachant que c'est très important au niveau donc du rendement parce que l'automatisation est stricte au niveau des quantités prévues, donc si on a fait un prévisionnel sur une production de 1 heure pour 100 kilos, bah avec l'automatisation ça sera respecté, mais avec la main d'œuvre humaine on sera peut-être à 900 ou 800 parce que bah, l'humain, il se fatigue, il prend un moment pour discuter, il prend un moment pour fumer une cigarette pendant une pause, voilà. Donc, c'est pas le même rythme. Mais on a trouvé quand même très important, en fait, de créer de l'emploi, ce qui valoriserait donc la ressource humaine déjà. Et puis... ça nous coûterait encore moins cher ou ça nous coûterait le prix qu'on devrait mettre en fait dans l'électricité et aussi donc dans la machine, parce que alors déjà pour faire le broyage, si on va, nous on a pris un broyeur, on va pas trop se prononcer sur le process, mais on a enlevé tout ce qui est automatisation. Par exemple, pour broyer le plastique, une ligne de broyage sans lavage, ça coûterait dans les 200 à 500 000 euros. Voilà, et même d'occasion ça coûte toujours cher en fait. Alors ça dépend aussi, hein. Il y a les capacités de production. Alors si c'est 200 kilos par heure ou bien une tonne par heure, ça sera pas les mêmes prix.
C'est sûr.
Voilà, et nous on veut avoir une production quand même moderne, donc on veut pouvoir produire en moyenne une tonne par heure. Donc il est important d'investir donc dans des broyeurs qui font entre 250 et 500 kilos par heure. Voilà, et donc si on doit rajouter un tapis roulant par exemple qui va faire du tri, ça va nous coûter énormément cher, alors que ça on peut le faire manuellement également. Donc voilà un peu comment on a dispatché, ce qui fait que notre projet va nous demander à peu près 500 000 euros
voilà. L'état actuel que vous venez de faire tout de suite.
Donc le projet qu'on a, le provisionnel qu'on a, on a besoin de 530 000 euros pour 550 000 euros,
pour une ligne de production.
Oui, pour une ligne de production qui nous permette de produire donc du granulé et ensuite de faire de l'injection avec les produits innovants Black Steel.
D'accord, les fabriquer, enfin.
Oui.
C'est pas fabriquer du coup les meubles au final, mais c'est juste le produit d'avant. Enfin.
Alors, on aura deux produits. Donc, les deux produits, c'est quoi? C'est qu'on va recycler le plastique en granulé pour l'industrie locale en Côte d'Ivoire. Donc, on va être donc. Dans ce cas-là, on va être un fournisseur exclusif. Donc, on va faire de la sous-traitance pour les industriels qui sont dans la plasturgie. On va les fournir en matière première.
Okay.
Voilà. Et parce que ça concerne que des plastiques, donc les PE, les polyéthylènes, comme on appelle dans le jargon. Et donc, c'est tout ce qui est film plastique, sac plastique, emballage en quelque sorte. Et puis, les bouchons donc, de bouteilles de lait, ou même les bouteilles de lait qui sont de ce composant-là. Voilà, maintenant, après, on va aussi broyer les bouteilles en PET, qui sont les bouteilles d'eau, voilà, et de Coca-Cola, par exemple, qui sont des PET, donc c'est du polyéthylène d'un autre type. Donc, ce matériau-là, on va le broyer pour l'exportation parce que ça sert donc l'industrie qui fabrique des sièges auto, des sièges pour les véhicules, le pare-choc ou même la matière, donc des pulls, voilà, des pulls qu'on met parce qu'on fait des fils pour tisser voilà, des pulls. Voilà, donc ce matériau, en Côte d'Ivoire, on n'a pas d'industrie en fait qui propose une transformation pour ça, donc c'est uniquement pour de l'exportation. Voilà, donc on a déjà des clients aussi au niveau de l'Angleterre et au niveau de la France. Donc voilà le premier produit. Ensuite, nous, donc tous les autres types de plastique, on va les recycler avec le textile et on va donc produire donc les tables bancs avec ça.
Voilà. Et du coup, les machines que vous cherchez, vous n'avez pas trouvé en Afrique ou juste que vous cherchez
Alors, donc nos broyeurs, par exemple, on va les acheter en Tunisie.
D'accord.
On a un fournisseur en Tunisie qui est aux normes européennes, on va dire internationales, qui respectent toute cette normalisation et puis qui sont adaptés à l'Afrique parce qu'on n'a pas tout ce qui est digitalisation là-dedans et au niveau donc, des coupures d'électricité ou de vidange, on pourra le faire de façon simple, nous-mêmes peut-être, voilà, à l'usine, donc sans avoir besoin d'un technicien qui intervienne là-dessus. Voilà, mais déjà, donc, on a déjà ce fournisseur-là en Afrique. Alors pour les extrudeuses, on se penche plutôt sur la France et l'Allemagne. Voilà, pardon. Donc pour avoir ces machines-là. Et puis pareil pour les presses d'injection, parce qu'on va utiliser les presses pour faire les produits finaux.
D'accord. Donc il n'y a pas grand monde en fait, qui font ça en Afrique.
Il n'y a pas d'un.
Encore. Aussi pointu.
Non. Il y a quelques ingénieurs qui fabriquent des machines, mais pas de ce type-là.
Oui.
Et puis aujourd'hui, c'est un peu compliqué de fabriquer ce type de machine parce que. Compliqué du fait que l'entrepreneuriat, surtout l'industrie, n'est pas très tentée encore par les nationaux, parce que eux, ce qu'ils font en général comme activité, c'est du commerce, l'immobilier et en quelque sorte que la distribution. Voilà, tout ce qui est industrialisation, c'est encore des étrangers qui tiennent les industries.
Et pourquoi, à ton avis?
Bah, déjà parce que c'est coûteux, les machines, les entrepôts, tout ça, c'est coûteux de mettre en place une industrie. Et puis c'est pas encouragé par l'État non plus. Donc, et il y a donc aussi une mentalité derrière hein, qui est cultivée pour dire ben ça coûte trop cher, c'est trop compliqué à gérer. Donc ils sont pas trop, sauf peut-être pour ceux qui sortent. D'une filière d'industrialisation et qui ont envie peut-être de s'essayer, qui ont la motivation, parce que je me rends compte moi aussi que c'est pas facile, il y a aussi une omerta au niveau des industries, donc
c'est un cercle assez fermé,
oui,
ça,
oui.
Parce qu'on laisse des gens un peu et ils travaillent ensemble,
oui. Donc, voilà, c'est un pari.
Donc, toi, tu vas rentrer dedans.
On s'est lancé.
Tu vas essayer de rentrer dedans et de te lancer, en fait.
Ben, c'est déjà fait. Hein, donc,
oui,
là, donc, je suis déjà dans la course et puis on essaie donc de montrer que c'est possible en fait qu'un jeune Africain natif de la Côte d'Ivoire ou du Mali peut tenir une industrie aussi. Voilà.
Donc après, c'est quoi la suite? C'est quoi les prévisions futures de Plastic?
Ben, nous, on veut être donc le leader du recyclage en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Voilà, donc déjà on se donne cet objectif là et puis après on verra. Donc l'idée aussi c'est de mettre en place ce produit innovant qui sera donc les tables bancs pour équiper les écoles. Une fois que ça sera fait, ça sera notre première fierté. Et puis l'idée c'est de l'expanser sur la sous-région ouest africaine, parce que ce soit au Mali, au Burkina, en Guinée, au Sénégal. Les tables bancs sont faits avec du bois, donc et c'est des pays qui sont concernés par tout ce qui est désertification. Voilà, donc il faut lutter contre la déforestation et la désertification. Donc, si on veut continuer à planter des arbres, il faudrait déjà arrêter de les couper peut-être, ou bien parce que ben on les coupe assez rapidement, mais quand on replante, ça met du temps à voilà à se reverdir. Donc en proposant des produits qui sont recyclés et recyclables, bah ça permet donc de ne plus toucher à ce gisement là. Donc
il faut donner une alternative quand même, parce que suffit pas de dire non, faut plus faire ça, mais faut proposer quelque chose.
Oui, c'est ça. Donc nous on veut aussi être un leadership par rapport à tout ce qui est environnement, société sociale, une industrie qui est dans l'économie verte, quoi. Voilà.
Bah, j'espère que tu y arriveras, en tout cas.
Ben, on se donne les moyens, en tout cas.
Ça réunit beaucoup de choses, en fait, le business, l'écologie,
ouais.
Le développement social un petit peu, et ça fait du bien, en fait. Pour un peu mélanger ça, parce que c'est pas dans tous les business, les industries qu'on peut mélanger le tout, en fait.
Effectivement, on porte ces valeurs-là et il y a des nécessités pour la planète, mais en Afrique, c'est des besoins, on a besoin de se développer, et aujourd'hui, si on peut se développer en partant déjà sur donc ces valeurs éthiques-là, ça c'est encore une force pour nous, et pour notre développement, ça sera un développement qui s'est fait sur quelque chose d'éco-responsable, si je peux dire. Voilà. Donc, ça permettrait donc d'être à l'ère donc des pays émergents avec des produits qui font attention à l'environnement. Il y a un impact social et environnemental réel. Donc, ça, c'est une valeur ajoutée plus. Donc, l'économie. Donc, c'est. On va dire que ouais, c'est un bon mélange. Ouais.
Qu'est-ce que tu aimerais dire à un jeune qui aimerait se lancer dans le business?
C'est de tenir, en fait, quoi qu'il arrive, de ne rien lâcher et puis de continuer à croire en soi, parce qu'on entendra beaucoup de choses, en fait. Ça va commencer déjà par les proches. Il faudra toujours convaincre en fait les gens en face de soi, et puis croire en soi. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas écouter les conseils. Il y a des conseils à prendre, mais quand on porte des valeurs ou on a des idées auxquelles on croit, il faut se battre en fait pour. Donc ça peut prendre largement de temps, comme ça peut aller vite. Si on tombe sur le bon interlocuteur. Nous on a eu la chance donc de tomber sur Monsieur Jean-Marc Neveu, donc qui est le gérant donc de CDA Développement et le cofondateur de Plastil, qui nous a fait confiance, qui nous a apporté un soutien. Inconditionnel. Qui est à Châtellerault. Donc, grâce à qui aujourd'hui nous avons un peu une valeur ajoutée supplémentaire, parce que avoir cette innovation nous ouvre aussi d'autres portes en Afrique. Et c'est vrai que l'idée de faire les tables bancs avec ce matériau est aussi géniale, parce que c'est une matière. Donc, nous, avec le plastique, ça aurait été. peut-être compliqué d'avoir le gisement, mais si on rajoute en plus du textile, donc tout ce qui est tissu synthétique, coton ou polyester dans ce matériau-là, bah, ça devient génial parce qu'on a assez de gisements en fait, pour pouvoir répondre à une grosse commande au niveau national ou même à l'international. Donc, parce que le prototype, il verra le jour en France, donc peut-être qu'il y aura une prod aussi ici. Donc voilà.
Tu veux te lancer en France aussi ?
Ben, j'aimerais bien, ouais.
Tu vas pas piquer les clients à ton...
Non, parce qu'on ne fait pas la même chose. Voilà, donc moi je propose un produit, c'est le mobilier qui m'intéresse avec ce projet, donc le mobilier urbain, donc notamment les tables bancs pour les écoles, mais peut-être des chaises de jardin. Aujourd'hui, les chaises de jardin qu'on utilise sont faites uniquement du plastique, qui sont même pas du plastique recyclé. Donc voilà, si nous on propose un produit différent demain, je pense qu'il y a des chances que...
C'est sûr, vous aurez beaucoup de points au niveau des mairies et tout ça, et collectivités qui font ce genre de structure, par exemple.
On verra après ce que ça donnera, donc au niveau de la prod, quand on pourra se lancer. Ouais. On verra bien.
Mais j'aimerais juste revenir deux secondes sur quand tu disais que faut pas trop écouter la famille ou l'entourage quand tu te lances. Toi, comment en fait ils l'ont pris quand tu leur as dit oui, je vais me lancer dans ce business-là?
Non, il s'agit pas de ne pas trop écouter. On va entendre beaucoup de choses, mais il faut croire toujours en soi, parce que souvent, c'est des idées qui sont dissuasives. C'est oui, t'es vraiment. C'est les questions. C'est est-ce que t'es vraiment sûr de pouvoir faire ça, de vouloir faire ça? Donc ça crée un peu le doute. Donc si on en croit à une idée, que c'est une idée, c'est à nous en fait de faire émerger cette idée chez les gens et pas l'inverse. Donc oui, moi, on m'a dit, mais t'as un profil d'informaticien, pourquoi tu fais pas quelque chose dans l'informatique, par exemple, ou bien le recyclage, mais c'est l'industrie, c'est de la production, c'est, il y a du management, t'es sûr de pouvoir faire tout ça? Je dis oui, mais j'ai mes bases, et puis je pourrais toujours apprendre, donc je me donnerai les moyens parce que c'est ce que j'ai envie de faire, donc... Donc c'était à moi d'affirmer cela, et oui, il y en a qui m'ont dit ben, le financement, où c'est que tu vas l'avoir, c'est énorme, 500 000 euros, t'as pas d'apport, comment tu vas faire, enfin, voilà, donc beaucoup vont pas croire, mais il existe quand même des solutions à tout problème, donc il faut continuer à chercher tant qu'on n'a pas, et puis...
Toi, ils l'ont bien pris, les gens
de
ta famille, quand tu leur as dit ça?
On a trouvé que c'était génial comme idée, il y avait beaucoup de valeur et tout, mais que ça restait quand même un truc à financer, les banques allaient peut-être pas suivre et que c'était délicat. Donc oui, on m'a parlé des conséquences, parce que ça m'engage financièrement, ça m'engage humainement, donc et ça on va te le rappeler parce que la famille s'inquiète pour toi, voilà, donc si tu t'endettes, que ça marche pas, comment tu fais, voilà, donc c'est des... Mais déjà je m'endette et puis on verra, voilà, donc non pas forcément ce que j'ai dit, mais j'ai crois en mon projet, j'ai le prévisionnel, les études que j'ai fait sur le projet et le besoin réel de ce projet-là. Donc, par exemple, les granulés, le besoin en local, je l'estime, je sais ce que ça vaut. Je sais qu'aujourd'hui, si je suis installé, que je produis mon produit et dans les normes auxquelles je souhaite le produit, je le vendrai. Et au prix que j'ai décidé. Donc, il y a déjà... pas mal d'intérêts qui se sont montrés. Voilà, alors c'est toujours difficile parce que quand on n'est pas dans la réalité, on ne peut pas mesurer certaines choses, mais ça, on s'adaptera après. Voilà, donc de toute façon, dans toute activité ou dans toute chose, on a besoin de s'adapter, on a besoin de prendre aussi certaines températures. Donc c'est pour ça, je ne suis pas inquiet pour ça, je reste complètement zen là-dessus et je crois aussi en la force du projet. Voilà, je sais que le besoin, il est là et il est, on va dire, c'est une nécessité quoi, de mettre en place ce type d'entreprise.
Plus tu avances dans le projet, plus ça peut certifier en fait que c'est une bonne chose et que c'est faisable.
Oui, complètement. Complètement. Même les clients qui nous ont... Enfin, on a eu des propositions hein, d'investissement, seulement que ça, soit ça ne porte pas nos valeurs, soit c'est compliqué parce qu'on va se faire éjecter à la fin. Donc voilà, donc pour l'instant, il faut continuer à chercher le bon interlocuteur. Donc c'est ce qu'on fait encore. Donc on mise beaucoup sur les subventions, les aides, voilà, dans un premier temps. Mais en Afrique, on en a très peu. En Côte d'Ivoire, on a la chance de trouver une subvention qu'on pourra demander. Mais ça demande aussi encore... une étude ou un dossier à déposer au niveau donc d'un bureau de consultants qui va nous accompagner en fait là-dessus. Voilà, donc c'est ça. Donc avant de recevoir, il faut donner. Donc pour l'instant, on est en train de donner. Voilà.
Et alors donc pour finir, toi, quel serait ton mojo, comme on dit, ou ta phrase fétiche aspirante que tu pourrais lire et partager?
Alors, mais je vais prendre ce qu'on a décidé pour Placycle. Donc, c'est assainir, transformer et créer. Donc, créer de l'emploi, créer de la valeur ajoutée. Donc, créer une économie circulaire. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, ça sera mon mot bio.
Ok, cool. En tout cas, merci. Merci d'avoir partagé tout ça.
Mais c'est moi qui te remercie.
Je pense que ça pourrait aider peut-être d'autres jeunes.
Oui, j'espère bien.
D'autres noirs, d'autres afro, d'autres personnes tout court qui veulent se lancer dans le business. En tout cas, c'est le but. En tout cas, merci. Et on peut te retrouver où si on veut?
Alors, donc, on a un site internet. Donc, www.placycle.fr.
Ok.
Voilà, et sinon, donc il y a l'adresse mail pour nous contacter, c'est plastic@plastic.fr. Okay. Et puis sur le site, on trouve donc les coordonnées. Donc il y a une page Facebook qui n'est pas très alimentée, même le site encore, parce qu'on est plutôt concentré sur la recherche de financement. Et après, donc on mettra donc peut-être le paquet sur la com par la suite. Voilà, un peu plus tard.
Cool. Bah, de toute façon, on reviendra, on en reparlera.
Complètement.
Et voir où ça en est. Peut-être que d'ici là, tu auras touché le milliard.
Oui, j'espère bien. J'espère bien.
C'est tout le mal qu'on te souhaite. C'est bien, il en faut de temps en temps quand même.
Oui.
Donc, en tout cas, merci et à bientôt.
Mais merci à toi, Mad. Au revoir. Salut.